7h24, hier, Québec annonce que trois régions basculent vers l'orange. Donc, après avoir eu le statut de zone jaune, on est en mode orange, ce qui implique un certain nombre de restrictions, pas aussi sévères qu'on l'avait probablement laissé entendre la semaine dernière. Mais quand même, je parle de tout ça avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. Monsieur Dubé, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Arcand.
Plusieurs questions ce matin à vous poser. D'abord, il y a combien de cas qui émanent des bars, des restaurants? Avez-vous l'espèce de profil là, des cas positifs? Est-ce que c'est d'abord les écoles, le milieu de travail, les parties privées? Quel portrait vous avez?
Écoutez, je vous dirais que c'est assez simple. Là. L'essentiel nous vient des parties privées. Et tout à l'heure, je vous expliquerai que c'est pour ça que l'essentiel de nos mesures aussi vont avec les problèmes qu'on a identifiés. Je vous donne l'exemple. On a décidé de réduire dans la zone orange, de passer des parties privées, de limiter dans les maisons de 10 à 6 personnes. Quand on est dans les bars, on a réduit les heures. Mais essentiellement, l'enjeu n'est pas au niveau des bars, l'enjeu est au niveau des parties privées. Et du fait que souvent, dans ces rassemblements-là, puis là, quand je donne l'exemple, c'est ce qui se passe dans les mariages, les barbecues, les baptêmes, les fêtes, où on avait des rassemblements qui étaient assez importants. On a pris la décision aussi de réduire le nombre de personnes. On était à 250 personnes. On a décidé qu'on soit dans zone jaune, verte ou peu importe la couleur, de passer de 250 à 50 personnes. Et là, on dit en plus, si vous êtes dans la zone orange, on la ramène à 25. Alors donc, je vous résumerai ce matin, c'est qu'on a identifié, la question que vous posez, c'est où on avait des enjeux, qu'est-ce qui cause des éclosions, et c'est là qu'on a fait des resserrements très ciblés pour diminuer pour s'arrimer avec les problèmes qu'on avait.
Sauf que les pouvoirs qu'ont les policiers, je dirais, les limitent dans leur capacité d'intervenir dans des résidences privées, là.
Bon. Alors, voyez-vous, je vous donne l'exemple. Quand on a fait le week-end dernier, là, avec les efforts qui ont été faits par la vice-première ministre, là, qui est responsable de la santé publique, on a fait plus de 1000 visites, je vais les appeler comme ça, des interventions. Et on s'est rendu compte, encore une fois, que dans les bars, les restaurants, ça va relativement bien, puis je vais la laisser parler. Ce matin, enfin, point de presse, Geneviève, là-dessus. Mais par contre, ce que je vous dirais, c'est qu'on n'exclut rien pour la suite. Geneviève expliquera les limitations qu'on a avec, justement, les parties privées. Mais on va aller un petit peu plus loin, mais je vais laisser Mme Guilbeault l'expliquer ce matin.
OK. Deuxième question. Est-ce que vous savez, avez-vous le chiffre, par exemple, pour la période du printemps, de ce qu'on appelle un surnombre de décès? À tous les ans, il y a des gens qui meurent au Québec à saison de la grippe. Il y a des gens qui voient passer toutes sortes de chiffres bidons sur le web. Il y a combien de personnes de plus de décédés qu'un, disons, une saison normale de grippe?
Bon, ça, c'est une bonne question. Je vais vous répondre de façon la plus transparente, là, puis ça me fait penser, on en a discuté beaucoup hier après la conférence de presse, comment on peut maintenant mieux expliquer ces choses-là, parce que là, on le voit, nous, on voit la pression sur le système de santé, mais peut-être qu'on doit mieux l'expliquer. Je reviens à votre question. Ce qu'on appelle le taux de morbidité, là, si, par exemple, en temps normal, il y avait des décès pour les personnes des catégories d'âge dont on parlait, là, de 12 à 1300 personnes pendant ces périodes de printemps là, qu'on a vécu dans la première vague par mois, on a monté jusqu'à 2200. Quand on additionne les mois d'avril, mai, juin, où a eu l'essentiel, là, on avait à peu près, et on expliquait à 100% les décès qu'on avait eus avec la COVID. Et ça, je pense que ça répond à votre question. C'est qu'il n'y a pas eu d'exagération de dire qu'on a pris des décès supplémentaires et on a dit qu'ils venaient de la COVID. Tous les décès de la COVID, on est capable de les comparer avec un printemps normal. Alors, c'est ça qui nous inquiète parce que là, on était capable de montrer ça. Et là, c'est ce qu'on va surveiller dans les prochaines semaines parce qu'on ne voulait pas se rendre là. Mais si jamais la deuxième vague, mettons, se confirme, ben là, on va être capable encore mieux d'expliquer, malheureusement, qu'on avait raison de passer du jaune à l'orange, puis etc. Parce que les Québécois, je le répète, peuvent encore faire une différence. Ça, c'est important.
En même temps, là, ce que je vois, ce que j'entends, ça se résume de la façon suivante. Ceux qui sont touchés sont jeunes. Il y a peut-être une hausse un peu dans les cas d'hospitalisation, mais des gens se sentent moins interpellés, dans le sens où le virus, on le sait, là, il ne cogne pas à porte, on ne sait pas trop, c'est un ennemi invisible, d'une part. D'autre part, les plus jeunes se disent, on a été frustrés avec le confinement, on peut-tu avoir maintenant un peu d'activité puis des loisirs? Puis troisièmement, ben, ils n'ont pas l'air à y croire tant que ça en bout de ligne.
Ben écoutez, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut améliorer dans notre communication maintenant dans les prochains jours, là-dessus, vous avez raison, parce que les jeunes ne voient pas encore. Je dis les jeunes parce que vous avez raison. La situation actuelle change dans sa composition. Cette vague-là, là, si elle arrive, elle ne sera pas pareille, notamment la population qu'elle affecte, les jeunes. Il faut qu'ils comprennent que le système de santé est déjà très affecté. Puis pourquoi qu'il est affecté? Parce qu'on est obligé de faire plus de dépistage. Plus de dépistage, ça implique ce qu'on appelle du délestage dans le système de santé. Qu'est-ce que vous m'en avez parlé souvent quand on se parle? Les chirurgies. Si je suis obligé de faire du délestage, ben, je vais avoir encore plus de chirurgies qui vont être en retard. Tout cet effet-là, c'est sûr que les gens ne le voient pas dans leur quotidien. Mais lorsqu'un jeune ou un moins jeune va apprendre que son conjoint, son ami ne pourra pas aller se faire opérer, ne pourra pas avoir son traitement qu'il était supposé avoir, bien là, c'est là qu'on va voir l'effet sur un système de santé qui est très fragile. Mais je vous le dis, je vais être obligé de le réexpliquer tous les jours, mais c'est ça qu'il faut que je fasse, parce qu'on ne le voit pas toujours à court terme lorsqu'on est un peu délinquant puis qu'on ne suit pas les règles. On ne voit pas cet effet-là. On ne le voit pas tout de suite.
Est-ce que vous êtes fixé un objectif, c'est-à-dire vous donnez combien de temps avant de passer peut-être à une étape plus contraignante, là, passe au rouge? Est-ce que ça doit, autrement dit, est-ce que vous vous donnez 2 semaines, 3 semaines pour voir comment ça évolue?
Oh non, on est dans les questions du jour, M. Arcand, parce qu'on évalue ça tous les jours, puis je pense qu'on se l'est dit souvent, ce qu'on appelle exponentiel, là, c'est quand les chiffres commencent à doubler à tous les 2-3 jours, mais là, on voit là, qu'on a un impact majeur. Alors, donc, on va reviser ça, mais je le répète, il faut que les gens voient qu'on peut changer la situation. Moi, ce que j'ai essayé de passer hier, c'est un message d'espoir. Puis ça, pour moi, c'est bien important. On veut rester à une normalité. Il n'y a personne qui veut être reconfiné. Mais pour ça, on doit faire des petits sacrifices en ce moment pour ne pas retourner là. Alors, moins de parties, moins d'aller visiter ses chums, de limiter les déplacements, de respecter les règles sanitaires. À ce moment-là, on va être capable de rester dans une certaine normalité, mais je ne voudrais pas qu'on retourne dans une zone rouge où là, on est obligé de limiter les déplacements, etc., fermer des choses. On ne veut pas aller là et on peut encore retourner la situation.
Autre exemple que je pourrais vous donner, dans certaines provinces et dans certains pays, on a décidé, avec cette deuxième vague là, qui pointe à l'horizon, de, par exemple, à l'école, réduire le nombre d'enfants par classe. Il y a bien des parents qui me disent « Ouais, mais si on ne peut pas être plus que 6 à la maison pour un souper, mes enfants, ils sont 22, 23, 24, 30 dans une classe. » Avez-vous pensé à réduire le nombre, justement, d'enfants par classe?
Bon, pour le moment, je dis pour le moment parce que vous savez que ça change assez vite. Pour le moment, c'est pas dans les écoles notre enjeu. Oui, on a eu quelques cas d'école dans les derniers jours où il y a eu une éclosion. Mais on avait vraiment des cas individuels qui faisaient que notre système de bulle, de respecter à l'intérieur des classes puis tout ça, ça va très bien. Alors, pour le moment, il n'y a pas besoin de faire de changement. Mais je vous le répète à chaque fois, si on voyait que la situation évolue, il faudra prendre d'autres mesures. Mais pour le moment, dans les écoles, ça va bien.
OK. Les fameux préposés aux bénéficiaires. Je dois vous dire, M. Dubé, là, j'ai de la misère à suivre. On a besoin de former des gens. On a eu besoin de former des gens rapidement, combler des postes, le manque de personnel. Et je reçois plein de messages de gens qui travaillaient temps plein comme préposés aux bénéficiaires, qui sont maintenant rendus sur appel parce que les nouveaux finissants arrivent. D'autres qui travaillaient 10 jours se voient coupés à 3 jours. Il manque-tu de monde? C'est quoi, là? C'est un trip de gestionnaire local? Là. Je la comprends pas.
Ben écoutez, je vais vous avouer que moi non plus, je la comprends pas. Là. Si je vais être honnête avec vous, là, j'aimerais bien ça si vous étiez capable de me transférer le courriel, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais si c'est anecdotique, c'est correct, là. Mais moi, je vais refaire le point avec mes équipes ce matin pour voir, parce que je la comprends pas, là. S'il y a du monde qui est retourné chez eux parce qu'on a trop de personnel, il y a quelqu'un qui n'a pas compris ce qui se passe en ce moment dans notre réseau. Là.
OK. Merci, M. Dubé. Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir.
Merci.
Christian Dubé, le ministre de la Santé. Et la question qui est posée, dans le fond, comment tu arrives à convaincre les gens? Il y en a qui prétendent, tu leur fais peur, ils vont suivre. J'ai un doute. Tu essaies de leur donner le plus clairement possible la réalité, le surnombre de décès qu'on a eu. Le fait qu'il commence à y avoir une pression sur le réseau de la santé. Et tous les patients non-COVID, là. La semaine passée, je pourrais vous nommer un hôpital où on s'est retrouvé avec des patients qui avaient été inscrits pour des chirurgies d'un jour. Ça arrive, là. Paf, on annule. Ça arrivait avant. Pourquoi est-ce qu'on annule? Parce qu'on n'a pas assez d'infirmières. Manque de personnel dans les blocs opératoires. Ça fait 18 mois que la personne qui m'a écrit attendait pour son opération. 18 mois. Ça aussi, ça joue. C'est pas de faire peur au monde, c'est une réalité de gens qui n'ont pas droit à des chirurgies, à des traitements qui sont mis sur la glace, parce que là, la machine commence à attendre la deuxième vague. Et ces patients non-COVID tombent justement un peu en bas du bateau. 7h36.